Donc, pour redémarrer au même endroit, après on verra ce qui se passe. La question de. Donc, j'aimerais reprendre la question de cet après-midi, de ce matin, quand il y avait un questionnement autour de est-ce que avoir une intention en méditation n'est pas quelque chose qui ferme et qui est presque antinomique avec l'ouverture, le lâcher prise, le laisser être. Et voilà, je pense que c'est une question qui a toute sa place, qui ne sera pas répondue facilement, mais qui vaut la peine aussi d'explorer. Et si on reprend l'histoire du Bouddha, qui probablement a été très 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 décoré, enjolivé, et qui n'est peut-être probablement pas, même s'il y a quelques faits qui sont historiquement visiblement prouvés, mais qui quand même symboliquement raconte beaucoup de choses et nous dit beaucoup de choses qui sont extrêmement précieuses. Si vous lisez l'histoire du Bouddha, en fait, c'est un chemin spirituel qui explique ce qui nous concerne aussi. Et dans son chemin spirituel, le Bouddha, à un moment, il décide de quitter son royaume parce qu'il il a une intention, il a une question, il a un feu qui brûle en lui, il pense que c'est possible de trouver la fin de la souffrance pour lui-même et pour tous les êtres vivants. Et il part pour ça, il quitte sa femme, son fils, son royaume, tous les fastes, il quitte ses vêtements, il laisse son cheval derrière, il laisse tout et il part dans les bois. Et il vit plusieurs années, il mène des expériences, il mène énormément, il suit son intuition, il mène des expériences les unes derrière les autres, il est bien en tête, il lâche pas l'histoire et il va jusqu'au bout de ses expériences. Tout ça parce qu'il veut trouver la fin de la souffrance. Il cherche la fin de la souffrance et il veut trouver la fin de la souffrance. Donc, ça, c'est cette direction qu'il a à l'intérieur, c'est une intention. C'est une intention qu'il a tout le temps. Il sait pourquoi il médite. Il sait pas comment ça va se passer, mais il a foi dans ce qu'il cherche et il ne garde. Il a ça en. C'est l'étoile qui le guide. C'est la fin de la souffrance, c'est ça qu'il cherche. Et du coup, il utilise tout ce qu'il a dans ses possibilités pour aller à la fin de la souffrance. Donc là, il pose une intention qui est présente dans toutes ses actions, dans toutes ses pensées, dans ce qu'il ressent, qui motive toutes ses décisions. Cette intention est là. Et ça me fait penser à Einstein quand en 1900, je crois que c'est 1905. Ou c'est, il a la théorie de la relativité, qui est toute basée en fait sur la vitesse de la lumière, et puis que rien ne va plus vite que la lumière. Et puis il y a un ami, voilà, en 1907, je pense, il y a un ami qui lui demande d'écrire un article, et il se rend compte qu'en fait il y a un bug dans son truc, c'est que d'après Newton, la gravité est une force instantanée qui se produit entre deux masses. Et du coup, lui, pour que sa théorie tienne l'eau, c'est pas possible en fait qu'il y ait quelque chose qui soit instantané et donc plus rapide que la vitesse de la lumière. Et ça le travaille pendant des années et des années. Et il trouve, comme il a fait toutes ses grandes découvertes, il arrive à une. En fait, il comprend et il crée la relativité. Du coup, l'eau devient la relativité restreinte. En ajoutant une théorie de la gravité, alors que je ne vais pas expliquer, mais c'est vachement intéressant, mais bon voilà, il comprend quelque chose. Et le moment où il comprend quelque chose, en fait, il est assis sur son tabouret, il n'est pas, parce qu'il décrit, en fait, on lui a demandé, je vais reprendre là, on lui a demandé, mais comment ça se fait que vous avez eu autant d'idées brillantes? Il dit, ben moi je ne travaille pas rapidement, mais je travaille tout le temps. Et donc ça veut dire que, en fait, c'est tout le temps présent en lui. Tout le temps présent en lui. Et il décrit beaucoup de moments où il s'assoit sur son tabouret, et là, il part dans un espèce de demi-sommeil où il n'est plus vraiment conscient, et il a des visions de lui assis sur un rayon de lumière, ou des visions de lui qui tombe dans le vide, où il voit un ascenseur avec des moteurs en dessous. Enfin, et en fait, c'est dans ces moments-là qu'il a ses plus grandes réalisations. Dans des moments où, en fait, la question le travaille. qui travaille dessus ou pas, la question, le travail. Et je pense que c'est ça que je veux dire quand je dis avoir une intention. C'est d'avoir un feu qui brûle, de sentir que oui, on cherche quelque chose, on veut voir quelque chose, on veut trouver quelque chose, on sait qu'il y a quelque chose. C'est ça la pratique pour moi, la pratique de la méditation, c'est de partir d'une intuition, d'un feu qui brûle. Après, on peut avoir des intentions plus spécifiques, par exemple en méditation, de s'asseoir et de juste observer la permanence. Donc, à ce moment-là, on n'observe pas vraiment les choses, on ne s'intéresse pas vraiment aux choses, on essaie de réaliser le fait que les choses ont un début, une durée et une fin. C'est ça qu'on regarde. On essaie de se faire témoin des choses qui vont et qui viennent, pour mieux avoir une meilleure compréhension de la permanence. Ça, c'est une intention, au début de la méditation, qui donne une direction. Il y a de la concentration, du coup, il y a de l'exclusion. On exclut le reste. Donc là, à cet endroit-là, oui, c'est différent d'être complètement ouvert et de tout accueillir et de lâcher. Hein, c'est toujours suite à cette discussion qu'il y avait ce matin. Donc ça, c'est les deux sont bien. Les deux sont intéressants. Être complètement ouvert, voir ce qui vient et lâcher au fur et à mesure qu'on voit qu'il l'a saisi, c'est super. Ou parfois, se saisir d'une technique et la maintenir. Ça demande de la concentration. Mais donc, en y réfléchissant tout à l'heure, j'ai l'impression qu'en fait, le lâcher prise, c'est pas un concept qui est vraiment présent dans le bouddhisme, ni même, je pense, dans l'hindouisme, ni même, je réfléchissais un peu au peu que je connais de la Bible, mais je ne vois pas ce genre de concept. Par contre, dans le bouddhisme, il y a la non-saisie. Il y a la non-saisie. Alors, qu'est-ce que c'est la saisie ? La saisie, c'est je suis en méditation, je suis bien avec ma respiration, et puis là, il y a une pensée qui arrive, et hop, je pars avec. Je l'ai saisie. Du coup, ça devient une distraction. Du coup, ça devient une prolifération mentale. C'est-à-dire que l'esprit se met en marche et crée une histoire. Et dans cette histoire, je vis des émotions, il se passe plein de choses. Qu'est-ce qui fait ? En fait, on ne va pas saisir les mêmes choses. On va saisir chacun en fonction de nos intérêts profonds. Donc, c'est-à-dire, par exemple, Einstein, lui, son intérêt profond étant à ce moment-là ce problème avec la théorie de la gravité, eh bien, toute chose qu'il va voir, tac, dès qu'il va y avoir un petit élément, hop, ça, et ça va peut-être prendre beaucoup de place dans sa journée et il va penser à ça. Il y en a d'autres, qu'est-ce qui va nous saisir quand on est en méditation ? Peut-être c'est si on a un grand besoin de sécurité. Eh bien, dès qu'il va y avoir la moindre petite pensée ou sensation d'insécurité, ou dès qu'il va y avoir des petites solutions pour se sentir plus en sécurité, je pourrais faire ci, je pourrais faire ça, directement cette pensée qui ne faisait que passer va être saisie et va devenir une histoire. Et on est parti. Et on ne l'a pas vu, bien sûr. C'est comme quand on tombe endormi, en fait, on ne voit jamais quand on s'endort. On ne voit jamais quand on part dans la distraction non plus. On se dit pas, tiens, je pars dans la distraction, qu'est-ce que je fais ? Non, c'est 5 minutes après qu'on réalise qu'en fait, ça fait 5 minutes qu'on est parti. On ne se voit pas partir. Mais on suit cette idée qui est dans le monde de la sécurité parce qu'on veut se sentir en sécurité. D'autres personnes, peut-être, la sécurité, ce n'est pas trop quelque chose. Donc même si la pensée vient, elle viendra bien sûr moins souvent, mais même si elle vient, il ne va pas y avoir de saisie. Ça ne va pas devenir une histoire. D'autres, c'est l'argent. Et du coup, il va y avoir des pensées autour de l'argent, peut-être une envie d'être riche, par exemple, ou d'avoir plus. Et dès qu'il va y avoir une pensée autour de l'argent, hop, ça va être saisi. On va saisir ça et construire une histoire. Et du coup, là, de nouveau, dans la pratique de la méditation, on va essayer de lâcher prise sur ce qui a été saisi. Voilà, d'autres, ça va être peut-être la sexualité. La sexualité est très importante. Dès qu'il y a une pensée ou une vision sexuelle, hop, ça, elle est saisie et ça se développe en une histoire. Voilà, chacun va avoir ses centres d'intérêt, ses importances. Et en fonction de nos importances, eh bien, c'est ça qu'on va saisir et pas les autres choses. Du coup, ce qui est important, à mon sens, c'est de bien choisir ce qui est important. De nouveau, comme Einstein, pour lui, ce qui était important, c'était de trouver une solution à cette histoire de gravité. Eh bien, ça travaillait 24 heures sur 24 dans sa tête, qu'il soit conscient ou non. C'est là. ces grandes découvertes ne se sont pas faites à un moment où il était conscient d'être en train de chercher. Elles sont venues plop, out of nowhere. Parce que c'est en lui le feu qui brûle. Il a cette recherche qui est là en lui, qui est hyper vivante, c'est sa vie. Et c'est ce que disait ce maître de méditation que j'aime beaucoup, pas de méditation, mais le maître spirituel de la tradition Advaita, Nisargadatta Maharaj, c'est quelque chose que je tiens d'un de ses livres, qui dit que si la réalisation, je crois que c'est le mot qu'il utilise, la réalisation ou la liberté, était notre seul intérêt, si vraiment c'était la seule chose qu'on veut, ça ne serait pas si long en fait. Mais on veut la réalisation, mais on veut aussi plein d'autres choses. Plein d'autres choses. Et parce qu'on veut plein d'autres choses, de temps en temps on est avec ce business du dharma un petit peu, mais plein d'autres moments on est tout à fait ailleurs, dans d'autres trucs. Et même dans notre méditation. Parfois, même souvent en fait, inconsciemment peut-être même, on veut autre chose. Donc la pensée devient notre télévision intérieure, parce que ça nous fait vivre des émotions qu'on aime bien. Et on préfère vivre des émotions qu'on aime bien que d'être avec le silence et juste la respiration, par exemple. Donc, nos attentions sont confuses. Elles sont multidirectionnelles et en grande quantité. Et ça divertit la puissance de notre recherche. Et c'est là que ce serait intéressant, peu à peu, d'essayer de restreindre pour avoir de plus en plus, pour que notre esprit soit de plus en plus dédié à notre quête. Alors, il y a une différence entre lâcher prise et non saisie, ou le non-attachement aussi, qui est proche du non saisie. C'est que le lâcher prise, ça se fait quand on a déjà saisi. D'abord, on saisit, et puis après ça, on essaye de lâcher prise. C'est pas facile en fait de lâcher prise, parce que si on a saisi, c'est parce que ça nous est précieux d'une manière ou d'une autre, ça nous importe. Pour moi, réussir vraiment à lâcher prise sur quelque chose d'important, c'est comme essayer de ne pas avoir peur d'un chien alors qu'on a déjà peur. Hein, parfois on dit, il faut pas avoir peur des chiens, mais qu'est-ce que tu fais? Le chien il est là et t'as peur. Vas-y, essaye de ne pas avoir peur. C'est trop tard. C'est antérieur que ça se passe. C'est ailleurs qu'il faut pratiquer la non-peur du chien, de manière à ce que quand le chien arrive, tu n'aies pas à lâcher prise sur ta peur. Sinon, après, on est dans un monde dans lequel il y a énormément de saisies et on essaie de lâcher. Mais donc, idéalement, ce serait de ne pas saisir plutôt que de devoir tout le temps lâcher. Et pourquoi est-ce qu'on saisit? Je pense qu'on saisit parce qu'il y a... on pense que c'est dans notre intérêt. Et je crois qu'on pense que c'est dans notre intérêt parce qu'on a une herméneutique de nous-mêmes, une interprétation de nous-mêmes. On s'interprète, on se raconte notre histoire. Au niveau d'une humanité, d'une civilisation ou d'un individu, on a une histoire de nous-mêmes dans laquelle il y a beaucoup d'imaginaire qui fait partie de notre réalité. Et plus j'y pense, plus je trouve difficile de discerner l'imaginaire et ce qu'on appelle le réel, à savoir même s'il y a vraiment une différence aussi tranchée que ce qu'on croit. Et du coup, on pense que toutes ces choses sont dans notre intérêt. On se délecte de ces choses ou on pense qu'elles sont dans notre intérêt. Donc, en méditation, ce qui va se passer, c'est qu'on va saisir des choses parce que ça va dans le sens de la construction d'une vie et d'une image et d'une histoire telle qu'on a envie qu'elle soit. Et c'est là que le Bouddha et Nisargadatta Maharaj et plein d'autres nous disent non, il y a une confusion. Il y a une confusion. Le gros problème, ce n'est pas la capacité de lâcher prise, c'est de penser, c'est la racine, si on veut aller à la racine, parce que c'est mieux plutôt que de tailler tout le temps les branches qui poussent à une vitesse, ceux qui entretiennent un terrain comme ceci le savent. ça pousse tout le temps, et pareil pour nos désirs et nos besoins et nos envies et toutes nos aspirations et tout ça, plutôt que de couper, d'essayer de lâcher à cet endroit-là, d'essayer de voir pourquoi il y a tant de prolifération là au-dessus dans les branches, et la racine, pointée du doigt très clairement et sans aucun doute par le bouddhisme et l'hindouisme d'une certaine manière, en tout cas certaines parties de l'hindouisme, c'est la croyance en une existence individuelle. Voilà. C'est le problème, c'est que on a une idée de ce qu'on est qui n'est pas fructueuse et qui du coup crée énormément d'agitation. On a une idée, donc dans la manière dont on s'envisage, dont on s'imagine et dont on s'interprète, on crée une histoire. Une histoire de nous-mêmes, il y a moi, il y a les autres, il y a le monde, je suis ceci. Et il y a une identification complète à cette histoire, c'est-à-dire comme s'il n'y avait rien de moi qui existe en dehors de cette histoire. Et ça crée énormément d'agitation, d'insécurité, de besoins, de peur. Tout viendrait de là. Et donc de réaliser qu'il y a un malentendu sur notre véritable nature permet qu'il n'y ait plus toute cette prolifération. Et libère du coup l'empathie, la générosité, l'esprit sans peur. Tout, la critique intérieure, viendrait d'un malentendu de base. C'est incroyable. Et du coup, l'idée, c'est pas de travailler sur chaque malentendu pour essayer de le lâcher. C'est infini. Alors bien sûr, il faut faire ça aussi à certains moments de notre vie et avec certaines histoires qui sont plus grosses et qui nous agitent, mais c'est de trouver les racines. C'est ça, moi, qui m'intéresse dans le Dharma, c'est d'aller trouver les racines. Je vais vous lire un passage du vieux Cheng. Le vieux Cheng, c'est un bouquin absolument délicieux, écrit par quelqu'un... On ne sait plus trop qui c'est, en fait. Mais il y a vraiment c'est vraiment précieux ce qu'il y a dans ce livre. Visiblement, c'est un moine qui va de monastère en monastère et qui parle aux moines. Et ça, ces discours-là viennent de... c'est une compilation de discours qu'il a donné dans différents monastères. Alors les moines, ils les appellent crâne tondu. Il est un peu incisif. Il se moque beaucoup et c'est succulent. C'est un peu long, je vous le lis, et puis après, je laisserai en fait le livre pour que vous puissiez le relire. Crâne tondu, l'esprit originel n'apparaît pas quand le sommeil vous quitte et ne disparaît pas quand il vous prend. L'esprit originel n'est rien et ne dépend en rien de ce qui varie et meurt. Si l'esprit originel était véritablement votre seule affaire, vous verriez tout ce qui varie et meurt de la même manière que vous percevez les mouvements que les danseurs impriment dans les oriflammes. Et vous vous attacheriez seulement à chercher sans trêve ce qui en vous ne varie ni ne meurt. Et quand vous l'auriez trouvé, alors il n'est pas un seul des mille mondes qui serait capable de vous en détourner seulement l'instant d'un éclair dans vos pensées, et de vous en écarter seulement l'espace d'un trait dans vos actes. Vous croyez aspirer à l'esprit originel, mais ce sont les satisfactions de la condition, du savoir et du mérite que vous cherchez. À cause de cela, crâne tondu, vous êtes entièrement sous le charme de tout ce qui en vous varie et meurt. Voilà pourquoi les paroles du vieux Cheng passent à travers vous sans laisser d'empreinte, comme les oiseaux qui ne laissent pas de traces dans le ciel. Mais donc, dans ce texte, il y a beaucoup de choses, mais une des choses qu'il nous dit dans ce texte, c'est ce que j'abordais auparavant, c'est qu'en fait, on a l'impression qu'on cherche la liberté ultime, peut-être, ou la libération complète de nos névroses, de nos malentendus, la réalisation, la dissolution de l'illusion, quelle que soit la manière dont on l'appelle. Mais on a d'autres intentions à l'intérieur. On cherche aussi d'autres choses. C'est un peu ce qui... Enfin, ça revient sur cette attitude de l'esprit, cette confusion qu'on a en nous qui fait qu'en fait, on cherche plein de choses dans plein de directions. Et ça crée le mouvement dans la méditation. Parce qu'on est en méditation, il peut y avoir un silence qui s'installe, mais le silence qui s'installe n'est peut-être pas à tout moment ce qu'on désire le plus. Et vient une histoire qui nous semble importante, même si c'est inconscient. Profondément, pour nous, c'est important. Et du coup, cette histoire-là nous prend. Donc, je vous lis maintenant une citation, pardon, de Sengtsen, un patriarche zen. Alors, je le traduis. La voie suprême n'est pas difficile si vous ne choisissez pas. Quand l'amour et la haine sont tous deux absents, et ça c'est une phrase qui est très forte, quand l'amour et la haine sont tous deux absents, pas juste la haine, quand l'amour et la haine sont tous deux absents, imaginez dans la méditation, il n'y a plus l'amour, il n'y a plus la haine. Tout devient clair et non déguisé. Faites la plus petite distinction, c'est-à-dire la plus petite préférence, entre ceci et cela, et la terre et le ciel sont séparés d'une façon infinie. C'est-à-dire que ça remet en mouvement, l'unité du silence se dissout. Il y a de nouveau, dans un beau moment de méditation, profondément, tout au fond, il peut y avoir un « Ah, j'aimerais bien que ça dure ». Et ça, c'est un mouvement. Et ça continue à établir un jeu, une identité, un jeu qui aimerait bien que ça dure. Et ça continue à faire perdurer la sensation du temps. J'aimerais bien que ça dure, j'aimerais bien que ça soit encore un petit peu plus comme ça. Ou, oh non, pas une douleur. Ou bien, oh non, pas cette pensée maintenant. Et hop, on la saisit. Ça y est, c'est reparti. Dès qu'il y a la moindre distinction, dès qu'il y a le moindre vouloir plus ceci que cela, ça remet l'esprit en mouvement et nous voilà repartis dans une histoire. Et malgré le temps qui passe, je pense que je dois raconter cette blague que j'ai racontée en anglais. Du coup, je ne peux pas faire l'impasse. Donc c'est une histoire que je connais depuis que je suis tout petit, et c'est l'histoire que j'ai le plus racontée dans tous les discours que je fais, je pense. Et c'est l'histoire dans un asile psychiatrique d'un gars qui se prend pour un ver de terre. Et du coup, le problème, c'est que il a peur des poules qui sont dans le jardin. C'est son gros problème, en fait. Du coup, il reste tout le temps à l'intérieur. Et les infirmiers sont très prévenants avec lui, essayent de lui faire comprendre, et vraiment sont vraiment bons avec lui. Mais il n'y arrive pas, il se prend pour un verre, et ça dure. Et du coup, chaque année, quand il y a un conseil pour voir qui peut sortir et pas, il ne peut pas sortir parce qu'il est encore trop convaincu qu'il est un verre. Il entend qu'on lui dit qu'il est un homme et tout ça, mais ça ne rentre pas. Mais quand même, petit à petit, à force, un moment, il se passe quelque chose. Et il dit au conseil, oui, je sais, en fait, je sais que je ne suis pas un ver, je sais que je suis un homme. Et le conseil est très content de lui dire, vous allez pouvoir partir. Et il fait sa valise, il sort, il arrive dans la cour, et juste là, près de la grille, il y a les poules. Alors là, il a un moment d'arrêt, puis il regarde l'infirmier qui l'accompagne, et il lui dit, ok, donc... Moi, je sais que je ne suis pas un ver, mais est-ce que les poules le savent? Et je pense que cette histoire, en plus, moi, de me faire beaucoup rire à chaque fois, c'est il y a quelque chose de profondément qui me parle vraiment, qui me parle en fait de ma condition. J'ai vraiment l'impression en fait d'avoir quelque chose de similaire avec cet homme. J'ai vraiment l'impression que moi aussi, je suis investi d'une idée de moi-même qui est erronée et qui crée de la souffrance. Et maintenant, imaginez que vous êtes un infirmier ou une infirmière auprès de cet homme. Comment est-ce que vous allez l'aider? Qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que ça va être en lui apprenant la pleine conscience de la respiration? Est-ce que ça va le libérer? Il croit qu'il a un ver, il n'ose pas sortir, il a peur des poules. Dès qu'il sort, il est envahi d'une peur énorme. La pleine conscience de la respiration, lâcher prise sur les peurs. Est-ce que ça va le libérer de lâcher prise sur sa peur? La prière, la dévotion, la gestion des émotions difficiles? Je pense que tout ça peut avoir sa place dans la recherche, mais au cœur, ce qui va se passer, où vraiment la libération va se produire, c'est quand il comprend qu'il y avait une erreur et que toutes ses peurs sont nées de cette erreur. Gérer les émotions difficiles au niveau des émotions quand elles apparaissent, c'est infini et ça n'arrêtera jamais. C'est la compréhension qui génère ces émotions difficiles qu'il faut aller réaliser. C'est aux racines qu'il nous faut aller. Et là, les enseignements dans le bouddhisme, les enseignements qui permettent d'aller déraciner et du coup de lâcher prise complètement sur cette identification erronée, sont les enseignements du non-choix et de la vacuité. Me semble-t-il. En tout cas, c'est pour moi ce que je ressens comme étant fructueux sur mon chemin. La pratique de la compassion est essentielle et n'est pas remplacée par la compréhension de la vacuité, et vont d'ailleurs ensemble et se nourrissent l'une l'autre. Alors j'ai vraiment pas le temps d'aller de cette direction-là, mais j'ai besoin de le dire parce que je pense que j'ai pas encore parlé de la compassion et c'est absolument essentiel. C'est un chemin aussi vers le non-soi en fait, pour faire bref. Donc je pense que à un certain niveau, le travail pour moi de la pratique de la méditation, c'est de désolidifier cette identification, cette image que j'ai de moi-même et que je ressens comme étant moi, comme s'il n'y avait rien au-delà. Cette image à laquelle je vois dans mes méditations, je vois dans mon quotidien qu'il y a énormément d'énergie qui est donnée à la construction et à la maintenance de cette image constamment, c'est phénoménal. L'activité cérébrale autour du fait de réactualiser et réaffirmer notre identité moment après moment, c'est phénoménal. Et c'est nécessaire. C'est nécessaire parce que sans ça, on ne pourrait pas fonctionner. Mais de croire qu'il n'y a que ça, ça nous mène, je pense, en tant qu'individu aussi bien qu'en tant que société, à une dépendance à l'extérieur, à une mise en insécurité, à un rétrécissement énorme de notre identité. Ça crée toutes les le jugement intérieur. C'est ça que je cherchais. Toutes les émotions destructrices, voilà, en français. Donc, là, de comprendre, je pense, que pour atteindre peu à peu une plus grande libération, c'est le chemin pour moi. Pour moi, le chemin que je suis et qui m'intéresse le plus, c'est d'aller au plus profond de moi-même pour me permettre de réaliser, de devenir familier avec des endroits de moi-même dans lesquels cette image n'apparaît plus. J'en parlais l'autre jour. Et de réaliser qu'en fait, j'existe aussi sans ça. Et que quand j'ai cette présence à moi-même dans lequel je ne suis plus ni un homme, ni une femme, ni né ici, ni un père de famille, ni un enseignant de ceci, que tout ça n'est plus là dans ce moment-là, à ce moment-là, quand ce n'est plus là, je deviens en lien avec quelque chose de moi qui était déjà pareil quand j'étais enfant et qui semble, je n'irai pas jusqu'à dire non construit, mais en tout cas beaucoup moins construit, c'est-à-dire qui ne nécessite plus d'activité cérébrale. Fragiliser, assouplir cette image, cette identité. Merci pour votre écoute.
Ce discours a été mis à votre disposition par l'association Dharma Nature. Pour soutenir l'association et Denis Roberex, l'enseignant, rendez-vous sur www.dharmanature.org/donation. www.dharmanature.org/donation.